Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, sixième de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Gérard Criballet.
Bonjour, monsieur Jean-Claude Jules.
Et Michel, donc vous êtes.
Et Michel Santo.
Gérard, vous êtes. Gérard Criballet, vous êtes maire de d'Ouveillant, de la commune d'Ouveillant. Donc c'est à ce titre qu'on vous a invité aujourd'hui. Je rappelle quand même que si la troisième partie vous sera exclusivement consacrée, vous pouvez à tout moment vous immiscer dans notre débat, celui que Michel et moi tenons sur nos sujets. Nos sujets, justement, le sommaire, nous commencerons par... toujours en nous référant, ou presque toujours en nous référant à des billets que Michel a fait sur son blog pendant la semaine, ces fameux contre-regards, sur des promesses intenables. Ce sont des promesses électorales, bien entendu. Mm-hmm. Nous évoquerons un sujet sous diverses facettes.
Oui, le marché aujourd'hui est très, très prometteur.
Absolument. Après quoi, nous reviendrons alors sur l'épisode alors Air France, dialogue social, etc., etc. Mm-hmm. Dans une deuxième partie de ce Radio Barque, nous évoquerons un sondage qui est paru dans la presse ces temps-ci sur la grande région. Et là encore, vu d'une certaine façon, mais forcément, Michel, tu poseras dessus ton célèbre contre-regard. Après quoi, eh bien, nous resterons dans alors un petit peu des polémiques politiciennes. C'est le maire de, enfin l'ancien maire de Carcassonne, toujours député Jean-Claude Pérez, qui règle quelques petits comptes à coup d'escopette, pour reprendre ton expression, Michel. Et puis, ben voilà, ensuite troisième partie consacrée à la commune d'Ouveillant et à son maire Gérard Criballet, qui vous êtes là à votre combien de mandats, Monsieur Criballet?
Alors le quatrième en tant que maire et le cinquième en tant qu'élu.
En tant qu'élu. Bon, voilà, donc un maire qui a quand même une certaine expérience de sa commune. Le premier sujet, Michel, avec ses fameuses promesses intenables. D'où les tiens-tu toi-même?
Oui, alors d'abord une petite remarque préliminaire pour Jean-Claude et je m'adresse à mes auditeurs aussi. Qu'ils ne voient aucun parti pris dans le fait que je cite souvent Madame Delga. Il se trouve que la presse locale, mais qui est aussi la presse régionale, hein, qui appartient au même groupe, celui de M. Baillet, hein, ne parle que d'elle, pratiquement.
Elle est devenue incontournable.
Elle est devenue médiatiquement incontournable. La moindre petite visite dans la moindre petite cantine municipale, faite et photographiée, commentée, faite et voilà. Bon, donc il se trouve que Mme Delga avait réuni un certain nombre d'élites entre guillemets économiques et sociales à Toulouse pour conférencer sur ce que serait sa politique économique si elle était élue présidente de la grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Et là, comme cela sera certainement le cas pour les autres candidats dans d'autres circonstances, elle a sorti un certain nombre de propositions typiquement électorales, c'est-à-dire des grandes promesses dont la probabilité qu'elles soient effectivement tenues est très faible.
Et c'est là où tu as sorti ton étalon pour mesurer cette probabilité.
Exemple de promesses qui ne peuvent pas être tenues. Interrogé sur le fait que la ligne Bordeaux-Toulouse était programmée par l'État pour 8 milliards et quelques, 8 milliards 5, hein, dans une échéance...
N'oublions pas les 0,5, ça fait 500 millions quand
2025.
Même.
Je dis oui, mais je me battrai en fait, le lendemain de mon élection pour que la ligne Montpellier-Perpignan soit effectivement, elle aussi, programmée. Ce qui, je l'avais expliqué la dernière fois, est impossible. Impossible, puisque dans les seuls financement programmé au titre du contrat de plan, en fait, entre la région, enfin Languedoc-Roussillon et l'État, il n'y a que 24 millions d'euros sur la table. Pour des études préopérationnelles, et en sachant que l'investissement en question, hors les gares de Perpignan, de Narbonne, de Béziers, la seule ligne, c'est 6 milliards et demi. Donc, promesse qui, en fait, est un vœu pieux. Cette ligne ne sera pas effectivement réalisée.
Des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, selon la formule traditionnelle.
Et elle dit en substance, de manière très générale, j'actionnerai très rapidement la commande publique pour qu'effectivement il y ait le maximum d'emplois créés dans la région, grande région.
Alors explication de texte.
Commande publique, ça veut dire, bon voilà, je vais relancer l'investissement grâce à un surcroît de dépenses d'investissement. Alors, première remarque, l'État, comme toutes les collectivités locales, aujourd'hui, sont à la disette, ou quasiment. Hein. L'État demande et met en place un programme de diminution des dépenses publiques, et il demande aux collectivités publiques de faire la même chose en diminuant, pour les inciter à le faire, sa dotation aux dites collectivités.
Mais là, il y aura des sous, là.
Alors, deux choses. Une, Mme Hedegaard nous dit « Je vais faire la commande publique, faites le plus vite possible, le plus fort possible, et donc j'augmente la fiscalité régionale. »
Oui, voilà, il faut le dire.
Il faut le dire. Mais elle ne le dit pas. Hein. Ou je le fais, mais je vais faire des économies dans d'autres ressources que j'ai, d'autres dépenses de fonctionnement notamment. Notamment, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, en vendant l'hôtel de région de Montpellier, qui ne servira plus à rien, puisque bon, il n'y aura qu'une seule région, donc un siège social. Elle ne le dira pas non plus. Hein. Elle ne dira pas non plus, par exemple, je vais supprimer toutes les maisons de la région Languedoc-Roussillon, qui sont un peu partout essaimées
Qui finissent par coûter cher.
Qui coûtent cher et qui ne servent à rien. Hein, s'il y a occupé, en fait, un permanent et une secrétaire qui sont tous peu ou moins, peu ou prou, liés à tel ou tel clan, en fait, bon, politico-social. Fermez la parenthèse. Et tout ça dans un contexte où, les auteurs, il faut qu'ils le sachent, c'est que les grands programmes d'investissement pour la période 2014-2020 sont déjà fixés.
Oui, oui.
Ils sont déjà fixés par les contrats État-Région. Et on voit mal, en fait, l'État, qui n'a pas un sou fait, à dépenser de plus que ce qu'il dépense aujourd'hui, pourrait apporter de plus dans ses contrats de plan au motif qu'il n'y aurait qu'une seule grande région pour relancer de manière significative l'investissement dans la grande région. J'ajoute que pendant au moins 2-3 ans, la principale énergie, les principales ressources intellectuelles qui seront mobilisées à Toulouse,
ça sera pour la fusion.
Assurer la fusion la des deux régions. Oui. Hein. Oui. C'est un énorme travail. Dans une entreprise, cela nécessite pratiquement 2-3 ans. Il n'y a aucune raison et surtout aucun caractère singulier qui différencierait deux régions par rapport à deux grandes entreprises. Donc pendant 2 ans, il ne se passera pratiquement rien, sinon effectivement un gros travail de restructuration et de mise en forme de tout l'appareil juridico-administratif de ces deux régions. Et quand je dis 2 ans, je suis optimiste.
Oui. Alors parmi les promesses intenables, ou en tout cas non tenues, il y a une apparition d'un journal dans la ville de Narbonne, un journal municipal, ce qui n'est pas surprenant en soi. Pratiquement toutes les villes ont des journaux. Mais il y avait eu un engagement de la nouvelle équipe de ne pas produire de journal. D'ailleurs, il n'y en a pas eu depuis un an et demi, pour faire des économies. Or là, les Narbonnais ont trouvé dans leur boîte, cette semaine, un nouveau journal qui s'appelle Narbonne et vous. Et oui. Qui s'appelle... Alors c'est pas le numéro 1, apparemment, c'est le hashtag numéro 1. C'est la nouvelle façon de
oui,
faire.
C'est
très branché.
Oui, Twitter,
après,
oui.
Voilà. Mmh. Après, pour le reste, c'est tout à fait classique. C'est beaucoup plus propagande qu'information, ce qui fait que ça le rend... pas forcément très intéressant pour le quidam moyen narbonnais.
Une petite remarque en passant, Jean-Claude. Les mêmes qui, hier, critiquaient les journaux de l'équipe précédente au motif qu'ils ne faisaient que de la promotion politique de l'équipe en place, font exactement la même chose.
On n'est jamais si bien servi, comme dit le proverbe, que par soi-même.
Comme quoi, il faut faire très attention à la critique que l'on fait, effectivement, des pratiques de ses adversaires.
Effectivement. Pour conclure cette première partie, le dialogue social, et notamment Air France, que nous avons évoqué la semaine dernière, avec des revirements un peu bizarres, Michel.
Oui, ça a été une semaine étrange quand même, hein, puisque à la suite de l'agression du directeur des ressources humaines et du directeur de je ne sais plus trop quoi, en fait, par des syndicalistes, le jour de la réunion du comité d'entreprise d'Air France, où a été présenté un plan de restructuration de 2900 suppressions d'emplois, ou 2700, je ne sais plus. Bon, voilà, agression. Le Premier ministre traite les agresseurs en question de voyous.
Clairement,
et quelques jours après, la police, à l'heure du laitier, débarque chez 5 ou 6 syndicalistes de la CGT, puisqu'ils avaient été clairement identifiés par les caméras de vidéoconférence, et puis, embarqué, mis en examen, en fait, etc. Quelques heures après, en fait, cette interpellation très matinale, déclaration dans les zones de Ségolène Royal qui dit il faut remiser ce plan de restructuration, il faut remettre tout sur la table, enfin, c'est scandaleux.
C'est ce qu'on appelle la cohérence gouvernementale. Ça.
Et pareil pour le Premier ministre qui revient un petit peu sur ses positions. Alors évidemment, la semaine qui vient, il y a une grande conférence nationale sur le dialogue social. Alors c'est vrai que ça la fout mal, quoi. Hein. Aller à une conférence de dialogue social dans un contexte où, avec cette affaire d'Air France...
Mais tu oublies, Michel, qui s'est passé un événement crucial qui a fait changer justement les orientations. C'est la prise de position de M. Mélenchon et sa proposition d'aller en prison à la place des gens soupçonnés. Mais le pauvre M. Mélenchon, est-ce qu'il a bien compris que s'il allait en prison, il n'aurait plus les caméras et les micros pour dire tout ce qu'il veut comme il le fait régulièrement?
Oui, c'est vrai que c'est un
peu... Il aurait complètement raté son coup, là.
Oui, mais là, bon, il a voulu faire un coup médiatique et visiblement, il a tapé à côté, quoi. Hein. Et d'ailleurs, plus personne n'entend parler de Mélenchon dans cette affaire-là, quoi. Hein.
Et à propos du dialogue social, il y a aussi la police.
Oui, non, mais c'est que je... pour revenir sur la France quand même, quoi. Hein. Tout ça pourquoi hein. Au départ, en fait, le syndicat des pilotes de ligne a refusé une proposition de la direction d'Air France de contribuer à une diminution significative des coûts d'exploitation en faisant plus de rotations. Enfin,
et pour s'adapter au low cost, au bas coût, au vol
et
à bas coût.
C'est consécutivement à ce refus du syndicat des pilotes que la direction a proposé, il a mis sur la table, parce qu'on ne peut pas faire autrement,
ce plan
de restructuration. Et alors, le positif de tous ces événements, si on peut parler comme ça, c'est que du coup, maintenant, le syndicat des pilotes de ligne semble revenir à une position plus responsable et serait prêt à discuter d'une diminution des coûts qui obérerait ce plan de restructuration de 2700. Alors, on peut se poser la question quand même. Hein. Est-ce que tout ça n'a pas été et n'est pas, ça n'est pas
une
la
mise
conséquence,
en scène,
la mise en scène, tout simplement la mise en œuvre d'une stratégie, stratégie de la direction d'Air France pour amener effectivement tout le monde à la table des négociations pour enfin discuter sur le fond et éviter ce plan de restructuration qui se traduit par des suppressions d'emplois.
Voilà.
Ce qui serait assez machiavélique, mais...
Il faut s'attendre à tout, et c'est pas dans une émission comme Radio Bark qu'on va se laisser impressionner par des stratégies machiavéliques.
Émettons l'hypothèse, en tout cas.
Une première pause avec un écran publicitaire.